Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le plaisir avec Harold d'accueillir François Mouille, qui est le président de la CGC, Confédération Générale des Cadres, CFE-CGC. Et on se connaît un petit peu avec François, on a fait quelques émissions ensemble. Et c'est un syndicaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui manie pas la langue de bois, qui est un bon connaisseur du système social français, qui est un bon technicien à la fois de l'économie, du social et de ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Et c'est l'occasion d'aborder toutes ces questions avec lui. Alors, l'actualité, effectivement, elle nous offre quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la conférence de presse, il faut bien le dire, assez surréel, irréel, surréaliste de François Bayrou concernant les finances publiques. Alors, il a un peu pris tout le monde de court, en traître, hein. Il a invité les gens pour réfléchir, il n'était pas à la première réunion, et puis soudain, tout le monde est convié, il prend la parole, et puis il nous sort ses PowerPoint en utilisant tout ce qu'il pouvait trouver dans le champ sémantique et lexical de la catastrophe, hein, le tsunami, la situation est intenable, c'est la faillite, c'est horrible, etc. Oubliant sans doute que on était depuis 10 ans dans la Macronie, d'abord à Bercy avec le ministère de l'économie, et puis 8 ans d'Emmanuel Macron à la tête de l'État. Alors certes, il y a eu un certain nombre d'événements comme le Covid, mais enfin, on en est à le Mozart de la finance, à presque 3 400 milliards de dettes du jamais vu. Et voilà François Bayrou qui commentait ça comme s'il était extérieur, hein, c'est son corps éthéré hein, qui sortait comme ça, là, qui regardait la situation et qui, comme s'il sortait de lui-même, désignant une situation un peu extérieure et surtout accusant les Français. Premièrement, d'être un peu défaignant. Hein. On travaille pas assez, nous dit-il. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, François Bayrou, très peu. Alors les gens m'ont dit non, il a travaillé, il a été professeur, oui, pas longtemps. Agriculteur, oui, pas longtemps. Il a repris l'exploitation, la maison familiale, ok. Bon, globalement, il fait de la politique depuis toujours. Et puis, il nous dit que les Français sont pas productifs non plus, voilà. Alors que nous sommes sous la pression fiscale. Notamment des prélèvements obligatoires, puisqu'on est champion du monde sans qu'on ait en contrepartie des services publics qui fonctionnent. On a développé, comme on est un peu martyrisé dans notre pays, plein de stratagèmes, de stratégies pour être très productifs, et nous sommes sans doute un des peuples les plus productifs de la planète. Voilà, en introduction, ce qui m'amène à notre première question, François Mouille. Qu'est-ce que toi qui connais bien ces questions-là, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse? Qu'est-ce que tu as été, comme beaucoup de Français, sidéré d'entendre François Bayrou? Est-ce que tu as eu ce sentiment qu'il s'excluait lui-même et qu'il commentait finalement le propre échec de la Macronie?
Alors merci, merci de votre invitation à tous les deux. Je vais répondre directement à cette première question. Et ça me sera facile parce que depuis 2 jours maintenant, je suis beaucoup intervenu. Et comme toujours, j'essaye d'avoir une expression qui résume de façon lapidaire, mais assez illustrative, ce qu'on ressent quand on entend ça. Pour moi, il a effectivement très clairement dressé un bilan catastrophique de la politique d'Emmanuel Macron. Presque il nous a donné des arguments. Moi, ça fait plusieurs mois, presque plusieurs années, qu'au nom de mon organisation, la CFE-CGC, je remets en question l'efficacité économique de ce qu'on a appelé la politique de l'offre. Alors, pour Emmanuel Macron et les différents gouvernements qu'il a mis en place, la politique de l'offre, finalement, ça se réduit à dépenser de plus en plus d'argent public, à le mettre à disposition des secteurs économiques. Et là, je m'empresse de dire, ce n'est pas ça le problème en tant que tel, que l'État intervienne vis-à-vis des entreprises, aide tel ou tel secteur économique. Moi, je pense que c'est bien au départ, mais simplement, il faut être attentif, à être sélectif dans ses interventions. Il faut être exigeant, il faut être conditionné, il faut être finalement avec les entreprises comme on est avec tout le monde. Il n'y a pas de raison comme ça d'arroser de plus de 200 milliards d'euros les entreprises sans leur demander aucun compte de l'utilisation et de l'impact et de l'utilité in fine de ces sommes. Donc nous, on pose quand même, et on est assez unanime en fait, toute organisation syndicale confondue, à dire mais on a un problème. Tout cet argent dépensé, qu'est-ce qui devient à part pour moitié des dividendes ou des rachats d'actions? Évidemment, là encore, c'est un raccourci, mais c'est mettre en phase des milliards par rapport à des milliards de l'argent public. On sait assez bien nous responsabiliser sur l'argent public, et donc je viens au cœur même de l'intervention de François Bayrou pour que nous-mêmes on soit exigeants vis-à-vis de nos gouvernements sur l'utilisation qu'ils font de notre argent public, et des moyens par lesquels ils souhaitent, ou en tout cas ils prétendent intervenir sur les secteurs économiques avec plus ou moins de résultats. Et là, bah, finalement, François Bayrou, il a été d'une assez grande performance didactique. Parce que, bon, pour faire simple, évidemment, la France était dans plutôt une bonne moyenne, une bonne conjoncture comparative avec les pays de l'Europe ou de l'OCDE il y a une dizaine d'années. Et depuis, tout va mal. Alors moi, je sais compter quand même, hein, depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé en France? Bah oui, il y a eu effectivement une politique, dite politique de l'offre, qui a multiplié par 3 les dépenses publiques vis-à-vis des secteurs économiques des entreprises, sans contrôle ni mesure, etc. Et par ailleurs, il y a eu un déficit d'intervention dans les emplois de qualité, dans la recherche. On a un point de retard vis-à-vis de l'Allemagne, 2 points vis-à-vis de la Corée du Sud. Là encore, bon, je fais des raccourcis, on y reviendra peut-être. Mais tout ça fait partie des choses que j'ai été amené pour moi-même à reprocher aux différents gouvernements en disant, mais vous ne tirez pas l'économie vers le haut, vous la tirez vers le bas, vous subventionnez la déqualification, la productivité va baisser. En fait, vous avez une action qui est contre-productive par rapport à ce qu'il est nécessaire de mettre en mouvement pour tenir équilibré les différents corps de notre société. Et donc aujourd'hui, bah, François Bayrou, c'est cette petite musique que moi je ne supporte pas, il dit tout va mal, à aucun moment il ne remet en question les politiques passées, mais il dit aux Français, c'est de votre faute. C'est de votre faute, vous ne travaillez pas assez, vous êtes trop en arrêt de maladie. Mais ça, c'est insupportable, en fait. Si les gens, bah, je le dis là encore, on y reviendra peut-être pour mon organisation, c'est vrai qu'il y a une augmentation des arrêts de maladie, c'est mesurable. Ben, ça, c'est un problème. On est tous d'accord pour dire que c'est un problème. Et on en parle, on en discute. Chacun a peut-être un peu sa vision, son explication, les raisons pour lesquelles il pense que tel ou tel indicateur se dégrade. Et s'il y a lieu à mettre en place des solutions ou en tout cas des moyens pour pouvoir inverser la tendance, eh bien on essaye de se mettre d'accord. C'est comme ça qu'on fonctionne normalement. On respecte les interlocuteurs. Et c'est là que moi je me suis senti quand même un peu infantilisé en fait dans la démarche du Premier ministre. Et j'en termine parce que bon, moi je suis un vieux militant, hein, comme Didier, tu le faisais remarquer tout à l'heure. J'en ai vu de toute ma vie, j'en ai vu, hein, des patrons d'entreprise dans ma propre entreprise qui tentent comme ça de faire passer un certain nombre de sujets et qui disent je vais faire de la pédagogie. Donc c'est vrai qu'ils ont fait des efforts. C'est vrai que dans la réunion du matin qui a précédé la conférence de presse qui était animée par Éric Lombard, et puis différents ministres, les interventions, elles étaient calibrées, les transparents, ils étaient bien présentés, tout ça était bien chorégraphié. On voit bien qu'ils avaient répété. Bon, ben je dis pourquoi pas, mais tout ça est une espèce de tunnel qui nous emmène à la fin, à ce constat, rien ne va, c'est la catastrophe, et la seule raison, c'est parce que vous travaillez pas assez et que vous dépensez trop en dépenses sociales. Donc à partir de maintenant, vous allez en baver, on va vous serrer la ceinture. Et ça, c'est insupportable.
Oui, alors c'est vrai que on a attendu au moins le début de l'esquisse d'un commencement d'une piste et il n'y a rien eu. Il a réservé ça au 14 juillet, c'est la fête nationale. Il va y avoir une salve, n'est-ce pas, des gerbes de solutions. Mais en fait, tout le monde a compris qu'il fallait se serrer la ceinture. Sans doute, on va dérembourser des médicaments et puis ils cherchent des milliards, 40, parce qu'ils ont des engagements. Nous ont-ils dit avec les autres, vis-à-vis des autres pays européens. Et puis ça va être 100 puis 120 milliards. Bon, aucune stratégie. Alors, avant de te redonner la parole, François, je voudrais entendre Harold, et chacun va y répondre, sur la question finalement d'un bilan qu'on peut déjà tirer du syndicalisme. C'est une question du chat sous Emmanuel Macron. Quelqu'un nous dit, c'est pas joli, joli, le syndicalisme sous Macron. Il a pas trop. Il a négligé les syndicats, il les a mis à l'écart. On a vu ça pendant la réforme des retraites, ça a été d'un mépris absolu. Toi qui es engagé, Harold, sur le terrain, dans des mouvements syndicaux, dans l'enseignement à Bordeaux notamment, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as vu un changement dans cette accélération, cette négation du syndicalisme?
Ouais. Alors, d'abord, je veux juste, avant de répondre à ta question, reprendre un peu ce qui a été perçu, hein, du discours de François Omeril dans Le Monde, justement, dans l'article. Donc, c'est les deux idées, hein. C'est cette idée, en fait, d'un discours finalement assez managérial en disant, ben, à la fin, il va falloir se serrer la ceinture, c'est-à-dire le tableau catastrophique et il faut se serrer la ceinture. Et François met en avant une idée intéressante, hein, par rapport aux 200 milliards, hein, que l'on fasse des études d'impact sérieuses. Alors, avant de répondre à la question, je vais juste poser une toute petite question à François, qui complète ce que vous venez de dire, François. Ce serait quoi ces études d'impact sérieuses? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on injecte cet argent et on ne sait pas trop ce qui se passe. On le voit par exemple avec les aides d'État à la formation, en particulier dans le secteur privé, puisque j'ai vu que vous aviez retweeté sur une question sur Pénicaud, hein, qui est passée dans l'enseignement supérieur. Et donc, tous ces contrôles, en fait, moi j'ai juste une question simple. Comment les mettre en place sérieusement, efficacement, et surtout que la force syndicale ait la capacité d'imposer vraiment au gouvernement une obligation de réponse et de rendre vraiment des comptes? Il y a une question d'ailleurs sur le chat qui va dans ce sens. Quid de colère, quoi? Quid de colère, c'est-à-dire que ces gens doivent être à un moment donné assignés à rendre raison de l'usage de l'argent public qui leur est donné, quoi, et qui leur est confié.
Alors,
Comment...
ouais, merci beaucoup, Harold, de me poser cette question-là. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus choquant. Peut-être c'est le plus choquant de tout. C'est le fait que les politiques publiques interventionnistes, finalement, qu'on nous propose et qu'on met en place, ne sont pas justifiées par des études d'impact a priori. Il n'y a plus d'études d'impact a priori. Et ensuite, ben, jamais personne ne prend le temps d'évaluer en fait ce qu'ont donné ces politiques. Alors je peux en donner plein d'exemples. L'exemple premier, c'est le CICE par exemple. Le CICE, c'est 37 milliards d'euros, hein. On n'est pas loin des 40, c'est marrant. C'est François Hollande, hein, qui le met en place. Soi-disant, on doit créer 1 million d'emplois grâce à ça. Ben, en fait, on s'aperçoit in fine que c'est pas vrai parce que si on compare la performance. Pour le coup, en la nettoyant de tous les artifices qu'on peut mettre autour de ce qu'on appelle le taux d'emploi. Et si on compare la performance française par rapport à ses différents voisins en Europe, n'allons pas jusqu'à l'OCDE, ben en fait, la réduction du taux de chômage en France, elle n'est pas supérieure aux autres pays européens, elle est simplement relativement conjoncturelle, et par ailleurs, elle se double d'un phénomène très très inquiétant que j'ai déjà évoqué, c'est une perte de productivité en termes de contribution au PIB. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dépense de l'argent vers les entreprises, on soulage, c'est vrai, le coût salarial, mais par ailleurs on ouvre des trappes à bas salaire, on finance la déqualification et l'économie s'en porte plus mal. Donc moi je pose la question, ce que je viens de vous dire. J'ai pas les diplômes, j'ai pas l'éloquence et les tables qui me permettent aujourd'hui de vous le démontrer comme un professeur à l'université serait peut-être capable de le faire. Simplement, je le dis et j'attends qu'on me contredise en fait. Moi, j'attends que l'État convoque des études qu'il a fait faire et qui viennent nous dire, non mais François Morin, vous dites n'importe quoi, regardez, on a ceci, on a cela. Or, il se trouve que il y a une étude qui vient d'être produite il y a moins d'un an, c'est le rapport Bosnio-Vasmer qui justement fait l'étude de l'impact des politiques en matière de financement des emplois déqualifiés. et qui démontre, pour le coup, dans un rapport qui fait presque 300 pages, que sur le plan économique, ça n'a pas eu d'impact positif. Est-ce que le gouvernement va s'en saisir? Est-ce qu'il va le prendre en compte? Est-ce qu'il va nous convoquer? Est-ce qu'il va dire, écoutez, j'ai compris, visiblement, il y a un problème. Je vais peut-être réorienter le bidule. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que face à cette forme un peu idéologique, finalement, de conduire les interventions vis-à-vis du domaine privé, et là encore, je le redis, je ne remets pas en question la nécessité de le faire, tous les pays le font. Donc pourquoi la France ne le ferait pas? Moi, ça ne me dérange pas, je suis un contribuable comme les autres. Si si l'argent de mes impôts, il sert à financer le salaire des profs, un bon niveau d'enseignement et en même temps des aides vis-à-vis des entreprises qui permettent de redéployer le tissu économique et industriel, moi, ça me va très bien. Mais là où ça ne va pas, c'est que finalement, à aucun moment, la politique particulièrement coûteuse n'est vraiment mise en examen de son efficacité. Peut-être au cours de notre discussion, je prendrai d'autres exemples. Il y a le programme de l'apprentissage, il y a le crédit impôt recherche. Bon, voilà, je veux pas en faire des tonnes là-dessus. C'est pour dire que sur tous ces dispositifs, en permanence, on interroge, on dit, mais démontrez-nous qu'on se trompe, dites-nous qu'on se trompe. Mais en face de nous, on a vraiment une porte fermée qui nous dit, mais c'est pas votre problème en fait. Voilà. Faites-moi confiance, tout ça c'est bon pour l'économie. En fait, c'est le discours du patronat. Mais pour finir, le patronat, il joue son rôle, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Lui, il est là, il tend la main, il dit donnez-moi de l'argent et surtout ne me demandez pas de compte. Mais le gouvernement, il lui donne. Bah, pourquoi est-ce qu'il en donnerait plus? C'est pas au patronat que j'en veux, moi c'est au gouvernement.
Oui,
Ouais.
alors c'est vrai que cette histoire du CICE est emblématique, hein, parce qu'elle n'a rien rapporté. Hein, et moi, j'étais dans une très grande entreprise, et effectivement, c'était des sommes astronomiques qui arrivaient dans les caisses de l'entreprise. Et puis, en contrepartie, rien n'était demandé. Et puis, c'est vrai, tu le soulignes, cet exécutif, avec ses différents gouvernements, on ne sait pas trop où il va. On ne sait pas pourquoi il fait les choses. Jusqu'à présent, on pouvait contredire des gouvernements. On l'a vu à l'occasion de la retraite, parce que finalement, au bout du bout, c'est Emmanuel Macron qui nous a dit, une fois que c'était voté, et que le Conseil constitutionnel, de façon assez scandaleuse, faut-il le dire, il n'y avait pas beaucoup de juristes, c'était des politiques, hein, bon, de toute façon, c'est devenu ça, le Conseil constitutionnel, nous dire finalement, c'est pour assurer les marchés, et ce que tout le monde avait compris, hein. Donc, les syndicats sont allés à Canossa, se sont rendus ensuite, après avoir été humiliés, dans le bureau d'Elisabeth Borne, qui voulait relancer le dialogue. Je ne sais pas quel dialogue elle pouvait relancer une fois que tout était fini. Et donc, je reprends ma question, Harold, puis après François. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, même, on a pas mal de recul aujourd'hui, entre les gilets jaunes, le Covid, et la réforme des retraites. On peut tirer un bilan sur la réforme du travail, de l'assurance chômage et maintenant l'assurance maladie qui est dans les tuyaux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sous Macron des relations avec les syndicats, est-ce qu'ils peuvent encore jouer leur rôle? Comment ça marche?
Bon, déjà, moi, je ne veux pas absolument développer un discours anti-syndicat, ça, c'est pas possible. Pas devant le président de la CFE-CGC, mais en général. Les gens qui sont engagés dans l'action syndicale sont souvent investis, quels que soient leurs étiquetages, en fait. Ils ont des convictions et ils se battent globalement, je dirais, pour à peu près la même chose, avec des moyens parfois différents, des idéologies différentes, mais globalement, ils se battent pour la même chose, c'est-à-dire, en gros, la qualité des institutions publiques. La qualité du service public, par exemple d'éducation. Lorsqu'il y a eu le gros bras de fer face à Monsieur Blanquer, j'étais proche, j'ai suivi ce que faisait Action et Démocratie, hein, qui est la branche éducation de la CFE-CGC. J'avais des contacts d'ailleurs avec René Chiche à ce moment-là. On n'était pas tout à fait d'accord sur les actions, par exemple. Est-ce qu'il fallait faire une rétention de copie? Est-ce qu'il fallait rentrer dans un bras de fer dur? Il y a eu quand même là-dessus des discussions stratégiques. On n'était pas tout à fait d'accord, mais en fait, on œuvrait pour la même chose. Parce que ce qu'on veut, c'est la qualité. C'est la qualité du service public. Quand on voit tout cet argent qui est investi pour quelque chose qui n'est pas, qui est sans qualité, on a aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation nationale, des pertes d'heures. Mais des pertes d'heures, pourquoi? Parce qu'on nous fait faire des formations inutiles, parce que c'est piloté en dépit du bon sens, parce que ce n'est pas pensé dans le sens de la qualité. Et moi, ce que je trouve effrayant avec Macron, c'est que des syndicalistes, des mouvements syndicaux, qui avaient en fait véritablement attaché au cœur la qualité du service public, se sont retrouvés criminalisés. Je dis bien criminalisé, c'est-à-dire que moi j'ai des collègues qui ont perdu un échelon, qui ont été barbousés par l'institution. On a été méprisés. Un exemple à Bordeaux, lorsqu'on a fait un mouvement contre la numérisation du bac, parce que corriger des copies numérisées au fil de l'eau, des stocks de copies, on fait un moins bon travail, par exemple. Alors on investit dans des serveurs, il y a beaucoup d'argent investi là-dedans dans le numérique, sauf qu'à la fin, la qualité s'en ressent. On nous traite un peu comme des adversaires de l'intérieur. C'est comme ça qu'on nous voit. C'est-à-dire que l'administration publique voit le mouvement syndical en général comme un ennemi de l'intérieur. C'est gravissime. Et pas simplement un partenaire ou en tout cas une force crédible et qui a sa légitimité dans la construction en fait justement d'un service public de qualité. Donc moi, la question que j'aimerais poser à François, c'est qu'est-ce qui reste en fait aujourd'hui, après toutes ces années de Macron, de l'action syndicale? Est-ce qu'il faut muscler? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on voit qu'il y a une démission aussi par rapport au syndicat, qui est de dire oui, mais alors ça sert à rien, on fait des actions, mais ça sert à rien. Comment il faut se situer, en fait? Voilà. Et quel est l'avenir aujourd'hui du mouvement syndical?
Ça, c'est vraiment une super question. Alors, je vais pas ici
Non, c'est juste. Voilà.
prétendre pouvoir y répondre maintenant, mais c'est une question que tout responsable syndical doit se poser, à tout niveau qu'il soit d'ailleurs. Un responsable de section, responsable de syndicat, de fédération et un responsable de conf comme moi, il doit en permanence se poser la question de l'utilité de son action. Sinon, il sert à rien. Voilà, je le dis en toute simplicité, c'est central dans l'action syndicale. Alors, peut-être je fais un petit retour sur ce qui s'est passé pour les organisations syndicales depuis qu'Emmanuel Macron exerce le pouvoir de président. Parce qu'il y a deux choses finalement que je crois qu'on peut mettre en concordance. La première, c'est que Emmanuel Macron ne se cache pas dès le début de son mandat qu'il souhaite gouverner de façon extraordinairement verticale. Il le dit. Il le dit, moi j'exerce le pouvoir sans corps intermédiaire. Et il le dit au syndicat. Au syndicat, il dit, mais vous ne m'intéressez pas, le paritarisme ne m'intéresse pas. Je pense que votre rôle, c'est d'être dans les entreprises et nulle part ailleurs. Alors, il ne le dit pas exactement de cette façon-là, mais c'est très exactement ce qu'il pense et le message qu'il envoie. Donc en disant ça, en fait, il shoote presque 80 ans d'histoire sociale, de construction de la démocratie sociale en France, il la passe par zéro. C'est d'une grande violence, en fait. C'est un message politique très fort, mais qu'au début, on a du mal à décoder. Il faut se remettre dans les circonstances de 2017, en fait. Parce que finalement, l'essuie-glace, hein, l'ardoise magique, elle tourne assez vite. Et d'année en année, on oublie dans quelle mentalité on était en 2017. Et après son élection, il faut le dire quand même, il y avait une forme un peu de dynamisme qui avait été emportée par le moment de son élection. Il y avait du scepticisme comme toujours. Mais tout le monde était un peu dans l'attente de voir ce qu'allait donner finalement ce programme un peu de réenchantement de la vie politique, sortir du bipartisme, etc. Je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas mon domaine. C'est un domaine sur lequel j'évite de m'engager parce que vous savez qu'on est, nous, les syndicats, en tout cas moi, la CFE-CGC, extrêmement, comment dire, prudent pour rester à distance des partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais ça ne nous empêche pas d'être critiques vis-à-vis le pouvoir. Moi, je m'en fous. Moi, il y a un pouvoir, le pouvoir, il exerce le pouvoir. Si je considère qu'il le fait mal, bien que je sois responsable syndical et indépendant de tout parti politique, ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que c'est le prix, justement, de ma liberté, mon indépendance politique. Eh bien, en fait, ça me donne ma liberté de dire ce que je pense sur la façon dont le pouvoir s'exerce vis-à-vis de nous et vis-à-vis des gens qu'on représente. Donc voilà le message. Le message, c'est que les corps intermédiaires, la négociation nationale interprofessionnelle, la gestion paritaire, tout ça, c'est trop compliqué pour vous. Entre guillemets, vous êtes un peu trop con, quoi. Vous comprenez pas. Nous, on est là, on exerce le pouvoir absolu, on a tous les conseillers qu'il faut. J'ai fait rentrer McKinsey, je les connais bien, etc. Et c'est évidemment pas moi qui parle, c'est le président. Et donc, on va vous tailler un truc tout bien comme il faut. Donc,
Alors
est-ce que
justement, François,
nous...
si tu me permets une incise, effectivement, dès 2017, dès 2016 même, c'est l'ensemble du personnel d'En Marche qui a été recruté chez McKinsey. En fait, ce sont les personnes de McKinsey, de telle sorte que dire, moi je le dis souvent, l'État a été pénétré, infiltré par McKinsey. Non, la Macronie, c'est complètement McKinsey. Et cette verticalité, elle s'est exprimée dans différents domaines, les relations extérieures, les affaires étrangères. Il a complètement massacré la diplomatie, qui était un peu l'excellence quand même, notre marque de fabrique française, le paritarisme, tu l'as dit. Et il y a cette verticalité, est-ce que je voudrais t'entendre là-dessus, a été accompagnée aussi par la caisse de résonance des médias qui ont été achetés, qui sont vraiment dans la géographie hein, d'Emmanuel Macron, comme jamais en fait. On n'a jamais vécu ça, que ce soit la presse écrite, je ne sais plus combien il y a eu, 83 unes qui vantaient ses mérites, le Mozart de la finance, enfin on a eu.
C'est ça, il y a eu un narratif. Ce narratif, là encore, personne n'est dupe. Hein, on sait bien comment ça fonctionne aujourd'hui, mais puisque tu m'as relancé là-dessus, moi je veux dire un mot sur McKinsey, c'est important. Nous, McKinsey, les gens du privé, de l'industrie, on les connaît bien. Moi, j'étais jeune ingénieur dans mon usine à Gardanne, donc je viens de l'industrie. Hein, je fais toute ma carrière là-dedans. Et nous, on les a vus arriver, les McKinsey, au début des années 90. Bon, alors, dans le consulting, il y a des bonnes choses, hein. Voilà, il y a des gens qui sont des consultants, qui ont de l'expertise et qui savent faire bien leur boulot. Il y a une caractéristique très spécifique avec McKinsey, c'est que leur boulot, c'est en fait de mettre à distance le réel. Voilà, moi je vous propose cette clé de lecture. C'est à
Absolument.
ça que ça sert McKinsey, mettre à distance le réel.
C'est très
Et
juste
quel que
ça.
soit leur boulot, c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
Très très juste.
Et c'est terrible parce que quand l'État, tout d'un coup, le fait rentrer pour penser la stratégie de déploiement des politiques publiques, ça devient une catastrophe absolue. Parce que justement, la politique publique, elle doit avoir un impact sur le réel. Elle doit avoir une influence sur ce qui fait le quotidien de la vie des gens. Et donc, au contraire de rapprocher le gouvernement de ses citoyens, McKinsey, c'est un média qui fait l'inverse, en fait, qui construit tout un paravent, qui rend finalement qui envoie le pouvoir dans un endroit où il ne voit plus le réel des citoyens sur lesquels il a une influence. Et donc, ça, au passage, un certain nombre de mouvements sociaux qui ont suivi s'expliquent aussi un peu par ça. La pensée d'Emmanuel Macron, en tout cas, ce qu'il nous en donne à comprendre, participe aussi un petit peu de ça. C'est-à-dire, je m'occupe de la politique, moi je critique pour le coup que sa politique soit très influencée par une idéologie qui, par ailleurs et en beaucoup d'endroits, a été confrontée à son propre échec, mais de cela je suis prêt à en discuter. Par contre, un point sur lequel je suis pas prêt à discuter, c'est quand on me prend pour un con, en fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, je ne me laisse pas faire. Parce que ce n'est pas normal. Tout à l'heure, Harold, tu évoquais mon syndicat dans l'éducation nationale, Action et démocratie. Et ils ont une revue que je trouve super. C'est le titre, s'appelle Le pari de l'intelligence. Pour moi, une société qui se développe, c'est une société dans laquelle on fait le pari que les gens sont intelligents. C'est-à-dire que si on leur explique les choses, ils vont les comprendre et ils sont en capacité de formuler des choix, des intentions, et qu'à partir de là, on est capable de rentrer dans des interactions. Et pour avoir des interactions, il faut être sur un terrain de confiance. Il faut que les gens s'expriment, il faut les respecter, il faut les aimer en fait. Ce qui m'amène à répondre à la question. Le rôle, enfin moi, je considère désormais le rôle de mon organisation syndicale, c'est évidemment d'élaborer un corpus dogmatique de compréhension de la société, de le mettre à disposition du grand public. C'est aussi d'intervenir, de faire de la formation des militants, de faire du décryptage au quotidien, parce que le travail des militants sur le terrain n'est pas facile, mais aussi d'élever le niveau du débat. Voilà. Je pense qu'en fait, les dirigeants, leur intérêt, c'est de baisser le niveau du débat. D'ailleurs, ils nous le prouvent tous les jours. Et en ayant cette phrase extraordinaire que j'entends souvent, mais qui ne me fait plus aucun effet, vous savez, monsieur Omri, c'est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je réponds une chose très simple. Je dis, vous savez, moi, je représente des gens qui construisent des hélicoptères, qui pilotent des centrales nucléaires. Rien de tout ce que vous allez me dire ne va m'impressionner. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Je suis capable de comprendre mieux et plus vite que vous quoi que ce soit comment dire, des éléments que vous allez vouloir me faire passer comme étant trop complexes pour que je les comprenne. Donc, je pense avoir un peu répondu à la question sur ce qu'est l'enjeu aujourd'hui d'une organisation syndicale dans la société telle qu'elle est devenue aujourd'hui en France et dans beaucoup d'autres pays. Ramener de la rationalité, dire les choses, s'incarner dans le réel, être un interlocuteur exigeant, élever le niveau du débat, ce qui n'empêche pas de porter au contraire des revendications. Les revendications, elles doivent toujours être dans le panel, mais il faut les mettre en perspective d'une analyse extrêmement rigoureuse de la situation et on ne peut pas s'exonérer d'en justifier le gain économique. C'est ça que je veux dire aussi. Dès l'instant que, désormais, dans le débat, tout est ramené à l'économie et que les gens ont ça dans la tête, finalement, presque on en devient tous un peu dingue, finalement. C'est ce qu'a fait François Bayrou. Tout le monde est responsable du bilan comptable du pays. On responsabilise tout le monde là-dessus. Eh bien, moi, je suis prêt à jouer le jeu. Je dis, ben, vous savez quoi? Ok, on va le faire. Et on va vous montrer que sur ce terrain-là, on est encore meilleur que vous. On est capable, mieux que vous, de dégager des perspectives qui permettent, mieux que vous, d'équilibrer les budgets. On n'est pas tout à fait dans notre rôle au sens historique du terme à ce moment-là. Mais moi, je pense, en tout cas, c'est notre analyse à la CFE-CGC, que désormais, on peut plus se mettre à côté. Il faut dire, bah voilà, on est autant capable que vous de faire les analyses et à partir de là, de démontrer que nos options, nos revendications, elles vont produire plus d'équilibre, plus de richesse, plus de bien-être, plus de bonheur, plus de progrès. Il faut accepter d'affronter l'ensemble des dimensionnements de ce qui fait aujourd'hui débat dans notre pays et dans notre démocratie.
Alors
Juste un
justement,
complément.
on est
Ouais,
Harold,
attends,
justement.
juste Didier, juste un complément, juste pour vraiment préciser ça en éducation nationale, parce que c'est très important sur le pari d'intelligence. Y a McKinsey a pondu un slide quand même de recommandations sur l'éducation, 500 000 euros. Alors, ce n'est pas tout à fait 500 000 euros, c'était juste en dessous, parce que au-dessus de 500 000 euros, il y a des contrôles. Enfin, bon, c'est assez vicieux tout ça. Mais c'est honteux. Quand on soumet un tel produit intellectuel, entre guillemets, à des professionnels de l'éducation qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, qui sont à l'université, dans les prépas, dans les lycées, dans les collèges, dans le primaire, quand on leur soumet ça, mais ils rigolent en fait, tout le monde rit. C'est l'imposition de la bêtise. C'est-à-dire, face au pari de l'intelligence, il y a l'imposition de la bêtise. Mais
Oui.
surtout, moi, ce qui m'a énormément inquiété avec Macron, c'est que notre interlocuteur, ça peut être le rectorat. Les techniciens du rectorat sont d'une morgue et d'une prétention et d'une fatuité effrayantes. Effrayantes. Quand on leur dit, par exemple, le grand oral, c'est une catastrophe à tout niveau, parce que ça ne forme pas intellectuellement pour le supérieur. Hein, François parlait de la formation de qualité. On ne forme pas la qualité en faisant des interventions un peu blabla sur des sujets choisis à la volée au mois de mai, entre deux ponts. Ça, ce n'est pas de la qualité. Donc ça, c'est quand même très important. Et une dernière chose, on a connu là, à l'université de Bordeaux-Montaigne, un mouvement de blocage de l'université. Pourquoi? Il manque 1,5 milliard d'euros pour le fonctionnement de nos universités françaises. Pardon, il manque 8 milliards, ça a été évalué par des études là-dessus publiques, 8 milliards pour faire fonctionner. Et M. Bayrou a retiré 1,5 milliard. Bilan, on arrive à un délabrement généralisé. Moi, j'ai pas eu de cours, c'est bloqué. Alors, et les syndicats sont pris au piège. C'est-à-dire que d'un côté, les syndicats ne veulent pas le blocage d'une université. D'ailleurs, la CFE-CGC à Bordeaux s'est exprimée par rapport à ça. Mais de notre côté, que faire? Que faire? Et on est un peu pris, c'est un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut résister, on veut lutter, on ne veut pas non plus détruire. Parce qu'après, ils diront, mais regardez, l'université de Bordeaux, ben, c'est tout le temps bloqué. Donc, les facs de sciences humaines, ça ne marche pas. Et donc, on va mettre de l'argent dans le privé. Hein, et
Alors justement, Harold
on va nourrir les fonds privés.
et
Enfin,
ensuite
je trouve qu'on
François.
marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous servent des choses qui n'ont aucun sens, des slides délirants, et dans la pratique, on voit quand même un effondrement réel, quoi. C'est
Alors
pas ça.
justement, je pense qu'on est au cœur du sujet. C'est l'un et l'autre, vous dites qu'il y a à la fois une mise à distance du réel, et le prof de philo que tu es, je pense, doit le constater tous les jours
Non, mais
parce que
la formule est très bonne, elle est
la
géniale, hein.
philosophie, c'est vraiment être en route, mais être en route dans le réel, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est des clés de lecture et de compréhension du monde pour comprendre, bah, quel que soit le domaine de la philosophie, de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire de façon matérielle, spirituelle, au quotidien, pour soi, pour les autres, et pour être plus ou moins épanoui dans une société. Donc, moi, j'adore cette formule, c'est vrai, la mise à distance du réel, qui ne peut aller que de pair avec une perte de sens. Et c'est vrai que, surtout dans les métiers à vocation, hein, l'enseignement, la justice, la police aussi, les gens ne comprennent plus trop pourquoi ils sont là dans les entreprises, n'en parlons pas, puisque pan après pan, cet exécutif est en train de tout détruire, après l'énergie, après un certain nombre le nucléaire, maintenant il s'attaque à l'automobile. C'est des pans entiers qui disparaissent, alors qu'on avait déjà connu le déclin de la métallurgie, qui est dans d'autres régions du monde très florissante. Comment conjuguer ces deux impératifs, cette perte de sens et cette mise à distance du réel? Comment retrouver une prise sur les événements, sachant que, je reprends mon exemple sur la réforme des retraites, 72% des Français étaient contre pendant tout le processus, 91% des actifs pendant tout le processus. Ça a fini au Conseil constitutionnel et à coup de 49-3. Et puis, il y a eu des élections, une dissolution que personne n'a comprise, complètement lunaire, là encore. Et qu'est-ce que fait Macron? Il ne reconnaît pas le résultat des élections, il va chercher Barnier, et puis il va chercher finalement Bayrou, qui a 26 députés, quoi. Donc quand on est dans cette négation du réel, François, et qu'on est syndicaliste, comment on fait pour faire entendre raison à des gens, simplement les remettre autour d'une table en disant, nous, notre champ d'investigation, notre champ de travail, c'est le monde réel, c'est les entreprises, c'est la vie de tous les jours, comment on peut s'y prendre?
Bon, alors moi j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Un dernier mot peut-être pour faire le lien avec ce qu'on vient de discuter pendant 10 minutes. On doit quand même à Emmanuel Macron d'avoir remis le syndicalisme un peu en tête de gondole, et notamment au conflit de 2023, puisque désormais on ne s'est pas trop érodé encore en termes de confiance des citoyens, tous les sondages le confirment. On a regagné quand même un peu de la confiance et je pense qu'on le mérite. Parce que, à l'occasion du conflit des retraites, on a gagné la bataille de l'opinion. Et ça, c'est fondamental. Moi, je ne fais pas un meeting sans rappeler ça à mes militants qui, parfois, sont un peu déçus. Ils me disent, bah, finalement, on a perdu, François. On a perdu. On a fait les 15 manifs. Des fois, on a fait la grève, etc. On y a cru. Et au final, la réforme, elle est passée. J'ai dit, vous savez, croyez-moi, on n'a jamais tout perdu dès l'instant qu'on a gagné la bataille de l'opinion. Il en reste quelque chose. Bon, j'en viens aux moyens d'agir. Au passage, ça me fait marrer puisque Harold est prof de philo, je pense à un sujet pour le bac philo. Reprendre la formule que François Bayrou avait mis au frontispice de son exposé il y a 2 jours, la vérité permet d'agir. Et moi, je verrais bien un sujet de philo expliquer en quoi cette formule est un contresens total. Je pense que c'est intéressant. Quand on a effectivement des dirigeants qui se gobergent, en fait, de faire des formules et qui confondent vérité, réalité, etc., je trouve ça quand même assez inquiétant aussi. Bon, bref,
Oui, et puis on peut tout justifier avec ça, hein.
Bah,
Tu peux justifier, tu peux tout justifier.
moi je dis toujours, chacun sa vérité. Et quelqu'un qui n'aime pas les radis, on a beau lui dire que les radis c'est bon, ça lui fait pas aimer les radis. Et donc justement, le dialogue social, c'est, et nous on fait l'expérience en permanence, c'est faire se confronter des réalités qui ne sont pas les mêmes, mais qui doivent ensemble trouver les moyens de cohabiter et de construire et de faire avancer un projet. Voilà, quelqu'un que moi, j'ai ma grand-mère qui disait, on n'a pas de bonnes idées quand on a froid aux pieds. Ben, il faudrait que nos gouvernants ils comprennent ça aussi, en fait. C'est que, voilà, ils peuvent avoir comme ça une vision des choses qu'ils voudraient imposer comme étant la seule façon d'avancer. Si les gens sont plus malheureux, Là, je vous sers encore une autre formule. Moi, j'aime bien les formules, mais ça, je pense que vous en aviez remarqué. On est dirigé par des gens qui voudraient nous faire croire que le bonheur de tous, c'est la somme des petits malheurs de chacun. Ben, il y a un moment où ça finit par craquer, quoi. Ça n'est plus possible. Je viens aux moyens pour agir. Alors d'abord, premièrement, parler, c'est agir. Voilà. Parler, c'est agir. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. On vit dans le monde de la communication. Je suis là ce soir. Je ne sais pas combien de personnes nous écoutent. Je considère que au moment où, puisque, et je vous remercie encore, vous m'ouvrez cette antenne-là, eh bien, au moment où moi je parle, j'ai une action syndicale. Parce que des gens m'écoutent, ils m'entendent, et peut-être ça les fait réfléchir, peut-être ils ne sont pas d'accord, peut-être ils sont d'accord. Peu importe. Peu importe. Ça crée un espace dans lequel, eh bien, tout le monde reconnaît qu'il y a des sujets, on peut en discuter. Et donc, déjà ça, c'est quand même un petit peu de l'action. Ça va dans le bon sens. Mais vous allez me dire, c'est pas assez concret. Alors moi, je vais prendre un exemple sur l'hôpital. Pour moi, tout est question de rapport de force, in fine. Vous savez, le corps humain ne fonctionne que parce qu'il est le siège de rapport de force. Les gens qui disent, je n'aime pas le rapport de force, ils n'aiment pas la vie. La vie, c'est un rapport de force permanent pour rester en équilibre avec son environnement. Dans le corps humain, il y a deux systèmes nerveux. Il y a l'orthosympathique et le parasympathique. Il y a un système nerveux de la commande et un système nerveux du réflexe. Et on ne peut pas vivre si on n'a pas ça. On ne peut pas vivre si on ne ressent pas la douleur. Les gens qui ne ressentent pas la douleur sont des gens qui ne peuvent pas vivre dans leur environnement. Donc il faut comprendre que le corps social est un corps vivant. Et que pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse s'adapter aux évolutions de son environnement, il doit être le siège de rapport de force. Parce que seul le rapport de force va générer la régulation qui permet de s'adapter à l'environnement. Donc le rapport de force, c'est bien. Simplement, il faut réfléchir. Comment est-ce que, à quel endroit on le pose, comment on l'exerce, comment on devient un acteur dans ce rapport de force? Et moi, je trouve que il y a deux exemples, effectivement, assez caractéristiques. Moi, je dois vous dire, moi qui ai fait toute ma carrière dans le privé, je dis souvent à mes collègues de la fonction publique, et je leur dis, mais avec énormément de compassion, je dis, mais vous, fonctionnaires, dans la fonction publique, vous avez été traités depuis 30 ans comme jamais nous, on aurait accepté d'être traités dans le privé. Jamais. Moi, j'ai une grande expérience de l'organisation du privé, de la façon dont les interactions s'organisent dans un comité d'entreprise et délégués du personnel, ce que c'est qu'un conflit, comment on le gère, comment on en sort. Il y a toujours des moyens, parce que justement, les rapports de force, ils existent, on peut les mettre en œuvre et on peut faire évoluer les situations dans les... C'est pas facile. Et dans des endroits, ça s'est, comment dire, ça s'est dégradé. Mais rien de comparable avec l'évolution terrifiante, le mépris absolu, l'absence d'interaction qu'il y a dans la fonction publique aujourd'hui, en général et en particulier à l'hôpital et dans l'enseignement. Alors moi, je vous propose un moyen d'agir. Pour l'hôpital, très facile. L'hôpital, qui c'est qui dirige aujourd'hui? C'est les comptables de l'ARS. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils sont dans l'hôpital à faire des piqûres? À faire des diagnostics, à prendre l'attention des gens? Bah non. À quoi ils servent finalement? Ils font de la comptabilité. Mais la comptabilité, c'est important. Mais si ce sont eux qui mettent sous contrainte l'activité, si tout le monde souffre, dit qu'ils souffrent à cause des pressions budgétaires qu'on leur met, eh bien, il faut réagir. Et moi, je sais comment faut réagir. Les ARS ne fonctionnent que grâce aux données informatiques qu'on leur envoie. Mais quelqu'un qui vient aux urgences, qui est malade, il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour lui prendre l'attention, lui faire une ordonnance et lui faire une piqûre. Il suffit d'arrêter de remplir les bases de données des ordinateurs. C'est simple. Et ça ne vous empêche pas de soigner les gens. Et vous n'êtes pas obligé de vous mettre en grève. Les gens, ils arrivent, vous les prenez en charge, vous les soignez. Et au moment où il faut mettre dans le bilan, le bilan dans l'ordinateur, ben vous ne le faites pas. Vous trouvez mille raisons pour le faire et vous ne le faites pas. Et je vous prie de croire qu'au bout de 3 jours, peut-être même avant, ben, là, vous allez avoir le corps qui va réagir. Et pour le coup, l'éducation nationale, ben, c'est pareil. C'est pareil. Vous enlevez à l'administration kafkaïenne qui torture les enseignants au quotidien, qui brisent les carrières. Vous les sevrez de données, vous les sevrez d'informations. Vous faites votre travail d'enseignant, vous accueillez les élèves, etc. Alors, je raisonne en théorie, bien sûr. Harold va me dire, François, c'est pas si facile. Mais c'est pas
Non,
grave,
il y a une
je
marge. Non, mais il y a une marge
répondrai.
d'action. Je suis d'accord avec toi, il y a une marge d'action.
Alors, justement, pour ce que tu dis, François, j'avais couvert ça à Paris. Il y avait un certain nombre de chefs de service de l'hôpital public qui avaient démissionné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit que leur rôle et leur vocation, c'était de sauver des gens, de soigner des gens. Et on leur faisait remplir toute la journée des PowerPoint, des documents. Et donc, ils en ont eu marre, quoi. Nous, on n'est pas là pour faire du ratio, pour remplir l'hôpital, etc. Nous, on est là pour soigner le mieux possible. Donc, ça avait fait grand bruit, hein, cette affaire. Effectivement, Harold, est-ce que là, il n'y a pas, in fine, par de quelque chose de très concret comme ça, d'enrayer la machine, de ne plus nourrir la bête, de ne plus répondre à des injonctions complètement folles, qui ne sont pas au cœur de nos métiers, de toute façon, ni de celui de l'enseignant, ni de celui du médecin, ni de celui du juge.
Je pense que c'est possible. Moi, je ne vais pas évidemment publiquement m'étaler là-dessus, mais je fais ce que j'ai à faire par rapport à ça. Par exemple, à l'université, il ne me viendrait jamais à l'idée de donner des cours comme ça, de me déposséder dans des fichiers numériques de cours qui pourront être faits après par d'autres et d'engraisser en quelque sorte hein, des MOOC ou des espèces de gros systèmes en fait qui à la fin se retourneront contre les professeurs parce qu'à la fin ben, on pourra dispenser un cours à 20 000 étudiants avec un seul professeur. Donc là je suis tout à fait d'accord avec François, la qualité et la praxis, parce qu'en fait on parle de ça, hein, on parle de l'intelligence et de la praxis. On parle de la réflexion sur nos actions et de la capacité d'agir. Sans les acteurs réels, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Hein, moi, j'ai une mère qui est dans un EHPAD, eh bien, il y a des soignants hein, qui sont avec elle, en fait. Et c'est ces gens-là, en fait, moi, c'est à eux que je pense. Et c'est ça qui nourrit aussi mon combat à la fois politique et intellectuel. Parce que ça, c'est sérieux. Dans les crèches, hein, il y a eu des scandales avec Orpea. Dans les crèches, les EHPAD, tous ces lieux sont des lieux de vie et c'est, on parle du corps social vivant, mais c'est là que ça se joue. C'est notre humanité, elle se joue à cet endroit-là. Donc ça, c'est un point absolument important. Mais le point est très, très intéressant, c'est que quand on a fait je dirais, les actions les plus fortes, les actions d'ampleur contre Blanquer, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à la Bourse du Travail, en particulier à Bordeaux, pour faire nos actions. On ne peut pas faire des actions comme ça tout seul. C'est-à-dire que la politisation et la syndicalisation et l'action, en quelque sorte, de construction de cette intelligence pratique, elle passe aussi par le syndicat. Parce que tout seul, il ne faut pas croire, tout seul, on est isolé. Tout seul, on va vous réduire, on va vous démembrer, vous dire, mais en fait, tu fais cette action, mais tu es un peu en faute professionnelle. Donc, une action, ça se construit. Et cette culture de la construction de l'action politique, enfin vraiment dans notre pratique syndicale, plus que politique, mais d'ailleurs dans notre pratique d'action sur les métiers, c'est ça un peu qui s'est perdu. Hein, par exemple, finalement, ce qu'on aperçoit, c'est les heures de vie syndicale. Les heures de vie syndicale, ben, c'est un peu toujours les mêmes qui viennent. Hein, on a perdu un peu cette culture-là. Et c'est ça qu'il faut vraiment remettre au cœur. Et le discours parfois un peu spectaculaire marchand, anti-syndical ou anti-action, oublie ça, oublie que ça se joue sur le terrain. Les décisions collectives, elles se prennent ensemble. Et c'est cette culture-là qu'il faut absolument favoriser. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très subversif. Mais il ne faut pas être naïf. Le management macroniste nous empêche de faire ça. Les réunions en présentiel, par exemple, pour les commissions du bac, bah, ils ont peur, en fait. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas nous voir tous réunis dans une salle. Ils n'aiment pas trop ça. Ça arrive une fois dans l'année. On sent que c'est
C'est
pas très bon.
sûr, oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la vie, il y a du contact direct, on retrouve des collègues qu'on voit qu'une fois dans l'année. Et forcément, ça crée du rapport de force.
Mais cette mise à distance du réel, effectivement, d'entendre François aussi là-dessus, c'est une pulsion de mort, en fait, hein. Parce que comme l'a dit aussi François, ben, la vie, c'est compliqué, il y a du conflit, c'est faire coexister des réalités différentes pour trouver un consensus, pour faire avancer la société. Alors, François, on voit qu'on ne peut plus continuer Comme ça, de toute façon, en matière de dette, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, la dette, c'est pas important, ben si, parce que finalement, dans ce système tel qu'il est aujourd'hui, effectivement, on dépend de la notation des marchés, et le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on doit payer pour la dette, sont en passe, sont pratiquement déjà aujourd'hui le premier budget de l'État, de telle sorte que c'est comme un peu, pour donner un exemple, un crédit revolving dans un couple qui s'endette pour payer le crédit du crédit du crédit et qui, le premier du mois, arrive à solder tout ce qu'il doit, hein, mais après, il faut vivre les 30 jours du mois. Donc pour toi, s'il y a, on voit bien que de toute façon, comme je l'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça, s'il y a des pistes de réduction, parce qu'il va falloir se remettre un peu dans, sans parler d'orthodoxie, mais peut-être d'être dans une trajectoire un peu plus normale, un peu plus naturelle, redonner des marges d'action à notre pays, comment on peut nourrir l'éducation nationale, la justice, la police et tout ce qui a à faire au niveau des services publics. On fait même plus d'aménagement du territoire en France, bon ok, si on n'a plus aucune marge de manœuvre. Donc si tu avais, on ne va pas évidemment faire un catalogue ce soir de mesures, mais philosophiquement, si tu avais quelques deux, trois leviers comme ça pour réorienter la trajectoire, qu'est-ce que tu préconises?
Alors, ça, c'est une question ardue. Mais je ne vais pas me défausser. Je vais quand même présenter ce que nous, à la CFE-CGC, on a un peu en magasin. Mais d'abord, je voudrais avoir une précaution oratoire. La dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Quelqu'un qui s'endette de, allez, on va dire 200 000 euros pour acheter une maison. À 40 ans, un couple, hein, voilà, mon cas est un cas standard finalement. Il va avoir un endettement de plus de 200%. Mais il s'engage sur 20 ans dans un dispositif où l'amortissement qui va lui coûter très cher, les intérêts, il va les payer comme l'État français les paye, mais il acquiert du capital. Des fonds propres, de l'actif. Aujourd'hui, la situation de la France, elle n'est pas entre guillemets catastrophique, au sens où le ratio dette sur fonds propres, finalement, les politiques, ils disent on donne de la dette à nos enfants. Oui, mais on leur donne aussi des installations, on leur donne des universités, comme Harold le rappelait, etc. Et si la dette permet de maintenir tout ça en bon état, ben, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Là où il y a un problème, c'est que la dette augmente, mais par ailleurs, notre actif se dégrade. Notre capacité à produire de la valeur, il se dégrade. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Et c'est le paradoxe de ces 7 dernières années. Ça, c'est très clair. C'est le bilan d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il alourdit la charge de la dette, mais en regard de cela, il ne met pas en place un appareil productif qui permet d'affronter la charge de la dette. Et donc là, à ce titre, moi je pense qu'on est dans une situation très préoccupante. À partir de là, proposition. Tout dépend à quel terme on veut juger les actions. Moi, je vais avoir un raisonnement, allez, on va dire je vais essayer d'avoir une vision stratégique des choses. Aujourd'hui, on a un vrai problème parce que si on faisait une analogie militaire d'un gouvernement, le gouvernement, c'est normalement un peu une armée en campagne, c'est-à-dire avec les généraux et les commandants, ils se retrouvent dans le quartier général, ils partagent sur la stratégie, et puis après, ils envoient les lieutenants et les capitaines avec leurs troupes au front. Ils expliquent les choses. Finalement, ils expliquent, ils pénètrent l'ensemble des acteurs du plan, de la stratégie. Ils arrivent à convaincre et chacun sur le terrain va s'organiser en fonction des aspérités qu'il va rencontrer. Et ils ajoutent, moi je veux que mes gens sur le terrain ne manquent de rien. Donc ils convoquent l'intendance. Et ils disent, voilà, vous allez vous occuper du ravitaillement pour que ces personnes, ils aient toujours à bouffer à l'endroit où ils ont une mission très précise à faire. Aujourd'hui, on a fait l'inverse. En fait, on a mis l'intendance dans le quartier général et les généraux, on les a foutus dehors. On dit, mais on ne fait pas de stratégie, c'est la cantinière qui va faire le plan de bataille. C'est ça aujourd'hui, ce qu'a fait François Bayrou. C'est ça. Il a dit, mais moi, je décide que de couper les crédits, donc je saupoudre tout ça. Amélie de Montchalin, qui est une femme particulièrement attentionnée et très travailleuse, j'imagine. Mais elle a eu un discours à la McKinsey, en fait. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. Elle dit, voilà, on gèle les crédits, puis si on ne les dépense pas, on va les annuler, blablabla. Mais quel est le projet? Quelle est la stratégie? Quel est l'objectif? Donc voilà ma réponse. Ma réponse, elle est, il faut avoir une vision à 20 ans. Quel est le problème en France? Le problème en France, c'est qu'on perd de la compétitivité, on perd la qualité des emplois. Donc il faut attaquer le mal à sa racine. Il faut récupérer le pourcent qu'on a perdu sur la recherche. Il faut mettre de l'argent à l'université, dans des formations de qualité. Il faut consacrer les budgets prioritaires à ce qui va remettre en compétitivité la France. Il paraît qu'il y a plein de chercheurs qui vont quitter les États-Unis parce que Trump les a virés. Vous croyez qu'ils vont venir en France? Négatif. Ils vont aller en Thaïlande, en Écosse, ils vont aller au Chili, ils vont aller au Japon, ils vont aller en Chine. Parce que là, on leur fera le pont d'or en Suisse pour qu'ils viennent. Ils ne viendront pas en France. Vous croyez qu'ils vont venir au CNRS pour être payés à coups de lance-pierre et avoir droit à des coups de pompe tous les 3 mois? Mais négatif. Donc ça, c'est central. Moi, je fais ça en premier. Et c'est la proposition de la CFE-CGC. Parce que ça renvoie une trajectoire. Maintenant, il faut effectivement éviter que les dépenses ne partent pas dans des telles trajectoires que on n'y arrive pas. Eh bien, il faut analyser les dépenses d'argent public inefficaces. Et pour le faire, eh bien, il faut avoir une organisation qui permette de le faire. Ce que j'appelle les dépenses inefficaces, là je m'attaque au secteur des 215-220 milliards d'euros qui sont basculés de l'argent public à travers des dégrèvements divers ou des interventions directes vis-à-vis du secteur économique. Ben, je pense qu'on peut avoir, pour le coup, sans tomber à zéro, mais au contraire, en gardant peut-être un volume un peu diminué, mais avoir des actions qui auront une efficacité économique renforcée et qui, au bout du compte, vont pouvoir générer de la valeur ajoutée, peut-être un peu moins de dividendes. Et alors, il y a la question de l'évasion fiscale, augmenter la ressource en allant vraiment traquer l'évasion fiscale. Il se trouve, je suis désolé, là encore, c'est pas prendre un parti politique que de le remarquer, c'est que plus on a parlé de la problématique de l'optimisation et de l'évasion fiscale, plus les administrations qui se sont suivies, et au passage depuis Sarkozy, donc là on est à l'aise, la droite, la gauche, le centre, ou en tout cas prétendument le centre. Ils ont tous fait pareil. Ils ont cassé les effectifs qui permettaient d'attaquer le volume estimé entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale. Et maintenant, pour finir, sur les dépenses. Moi, je vais peut-être, vous allez me trouver idéaliste, mais je vais convoquer là encore mon expérience. Moi, je viens de l'industrie, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie chimique. Dans l'industrie en général, dans la fabrication, un gros budget, c'est la maintenance. C'est la maintenance. Vous savez, les installations, les pompes, les tuyaux, les vannes, etc. Il faut les graisser, puis ça tombe en panne. Puis quand c'est en panne, il faut les remplacer. Et moi, tous les ans, j'ai connu ça, moi, l'exercice budgétaire. Oh, ben, l'an dernier, on a dépensé 20% plus de budget en maintenance. Cette année, c'est hors de question. Ben, on peut bien dire ce qu'on veut, mais quand l'usine s'arrête parce qu'il n'y a plus d'argent pour changer la pompe, eh ben, en fait, on va quand même changer la pompe, parce que sinon, tout s'arrête. Et plus on met en place des dispositifs coercitifs pour contraindre le budget, plus on enlève de l'intelligence opérationnelle aux gens. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. On veut réduire les dépenses? C'est simple. Faut mettre les gens en responsabilité. Faut supprimer les contrôleurs. Mettre la machine en panne, c'est très facile à faire et c'est indétectable. Vous voulez faire de la productivité, faire de la valeur ajoutée, vous mettez les gens en responsabilité sur le résultat à atteindre. Et vous leur garantissez qu'ils auront les moyens de le faire. Je prends un exemple et j'en termine là-dessus. Un exemple très simple. L'hôpital, toujours l'hôpital. La plupart des analyses sanguines désormais sont sous-traitées au laboratoire d'analyse. problème, on a fait des économies. On a supprimé le technicien qui était près de sa machine d'analyse sanguine et qui parfois ne travaillait que 4 heures parce que c'était comme ça. Et puis d'autres jours, il travaillait plus longtemps. Mais en tout cas, ça coûtait cher. Et il y a des gens qui ont fait un calcul quelque part en disant, ben, si on sous-traite les analyses sanguines au laboratoire d'analyse d'à côté, moi je suis en Savoie, hein, voilà l'hôpital d'Albertville, il a plus son laborantin, il a plus son matériel, il faut maintenant que les analyses elles aillent au laboratoire d'Albertville. Alors il y a la permanence, etc. Mais là où on avait l'analyse dans les 5 minutes, aujourd'hui, des fois, il faut attendre 1 heure et demie. Et pendant que vous attendez 1 heure et demie, ben, la personne, elle reste dans le box des urgences. Sauf qu'une heure de box d'urgence, ça vaut beaucoup plus cher que l'heure du laborantin ou l'entretien de sa machine. Des exemples-là, moi, je vais vous en donner 1000, parce que c'est toute l'histoire de ma vie, d'avoir été confronté à des gens qui, très très loin des opérations, prétendent faire des économies en supprimant des moyens aux gens qui, sur le terrain, sont en charge de produire du bon résultat avec les moyens les plus adaptés. Moi, je prétends qu'on va faire des économies si on inverse complètement les choses. Voilà, il faut arrêter de couper les crédits, il faut arrêter de couper les moyens de bien travailler, il faut faire confiance aux gens et vous allez voir que pour le coup, la dépense, elle sera beaucoup mieux utilisée. Mon raisonnement, il est théorique, mais forcément, si on ne passe pas par ça, c'est au passage un mal français, parce que tous ces politiques qui critiquent la France, ça, ils ne le critiquent jamais. Mais c'est quand même un truc de dingue aujourd'hui. Vous avez, moi je me rappelle, on se foutait de la gueule de la Pologne dans les années 70, où il y avait un type qui travaillait et trois personnes qui le surveillaient. Ben, j'ai un peu l'impression que c'est devenu le cas aujourd'hui dans beaucoup d'endroits de l'administration en France. Et l'administration, et pas seulement, hein, y compris les administrations déléguées sur l'assurance maladie et tout ça. Alors après, j'espère qu'on aura 2, 3 minutes pour parler du chômage, de France Travail et tout ça. Mais vous voyez, la liste est infinie des sujets sur lesquels, en restaurant des liens de confiance, en responsabilisant les gens, en leur parlant bien, en fait, en partageant avec eux une stratégie, en les mettant dans le plan, eh bien, on va avoir un bon résultat, on va augmenter la productivité et on va dépenser moins.
Mais François, est-ce que le problème quand même qui est posé là, qui est très clairement que tu exposes de façon très claire, ne touche pas le problème quand même de la haute fonction publique française? Parce que cette stratégie industrielle et technologique, il faut des gens qui soient du métier, qui soient de la partie. Quand on voit Bruno Le Maire, bon, avec des talents littéraires assez douteux, mais à part ça, moi, Bruno Le Maire, je vois pas très bien en fait où elle est son expertise économique et industrielle. J'ai pas compris. Je ne comprends pas Elisabeth Borne à l'éducation nationale. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle ne le sait même pas. Si je devais discuter avec elle de la réforme Blanquer, je pense qu'en 5 minutes, elle serait larguée. Elle est ministre. C'est gravissime, en fait. Donc, on met aux responsabilités des administratifs. Il faut des administratifs, il faut des hauts fonctionnaires, mais il ne faut pas que ce soit des hauts fonctionnaires qui décident de la praxis des gens dans la base sociale. C'est pas possible. Je vais te donner un exemple. Ma sœur a été embauchée, prague, détachée du secondaire. Elle est agrégée de latin grec à l'université de Bordeaux-Montaigne pour faire des cours de français aux étudiants, parce que quand on a le bac aujourd'hui, c'est évidemment pas la garantie de pouvoir lire correctement et d'écrire des dissertations et de faire des commentaires de texte. Elle a mis en place des outils. Ces outils lui ont pris du temps. Elle a essayé, et je trouve ça normal, de les financiariser, de dire, mais quand même, moi j'ai fait ça en plus de mon travail de Prague, eh bien, il n'y avait pas de budget. On lui a dit, madame, non, non, ça, ce n'est pas dans votre formation. Vous vous êtes payé 38 euros de l'heure le TD, et c'est tout. Que vous fassiez de la merde ou que vous fassiez des choses de qualité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de budget à l'université Bordeaux-Montaigne pour payer la qualité. Par contre, on va faire venir sur fonds publics des intervenants privés qui vont être payés rubis sur l'ongle pour baratiner dans des amphis sans aucune praxis sociale. Et là, je suis absolument en accord avec ce qui vient d'être dit. Mais le problème, c'est un problème de décision politique. C'est-à-dire qu'il faudrait dans l'éducation nationale des professionnels, un consortium, un collège en fait de professionnels. Et c'est partout pareil, dans l'économie, dans l'industrie. Là, les exemples pris sur les vannes. Bon, mais ça, c'est précis, quoi. On est vraiment dans le. On est la main dans le. Voilà, on est la main dans le travail. Mais ces gens ne sont pas dans le travail. Et une dernière chose, parce que j'ai vu que tu avais retweeté ça, Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, hein, dont on se souvient, hein, sa puissance oratoire, hein, nous a vraiment séduit, cette dame. Hein, vraiment, ça, c'est une grande oratrice, Muriel Pénicaud.
Magnifique, magnifique.
Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Mais moi, je n'ai pas compris, Muriel Pénicaud. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est administrative, donc chez Galileo Global Education, d'accord, qui a été en fait, qui vient de fonds de pension américains, hein, Providence Equity. Vous ferez une recherche, qui a racheté d'ailleurs un groupe qui est l'Istituto Mangori, qui est un groupe italien. Bref, c'est des fonds de pension d'éducation privée. Il y a un article du Monde qui a été publié, donc on sait tout ça. Un article du Monde avec Claire Marshall, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Cube, et qui montre en fait que Galileo, alimenté par des aides d'État à l'apprentissage et à la formation, bourre les classes de supérieurs et fait de la mauvaise qualité. Moi, je suis, alors en termes de force, moi, j'ai la colère en fait, mais elle est permanente. C'est-à-dire que d'un côté, on va détruire l'université de Bordeaux-Montaigne parce qu'on veut retirer 1,5 milliards, et de l'autre côté, on engraisse en fait avec des milliards d'euros, avec la formation pro, avec tout ça, avec cet argent public, des formations privées qui détruisent la qualité. Ces gens sont comptables, en fait. Il faut comprendre ça. Ces gens sont comptables. Et moi, je comprends aussi la colère. Je comprends les gilets jaunes. Je comprends tout ça. Parce qu'il arrive un moment où le pari de l'intelligence face à des bœufs en plus. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs s'ils sont cyniques ou bêtes. C'est toujours un peu, c'est le chat de Schrödinger, c'est indécidable, quoi. Est-ce que ce sont des génies de cynisme ou est-ce qu'ils sont stupides? Je n'arrive pas à trancher cette question, mais il y a un moment, il faut vraiment qu'on renverse le paradigme. J'ai ma question, est-ce qu'un programme politique, alors là je te sens un petit peu la casquette syndicaliste, mais est-ce qu'un programme politique ne doit pas vraiment mettre ça au cœur du problème? Et je ne trouve pas, peut-être je cherche mal, mais je ne trouve pas sur l'offre actuelle une réflexion sérieuse sur cette question. Je dirais
Alors
dans
François, en complément, si tu me permets, puisque tu parlais il reste une vingtaine de minutes à peu près, pour aborder effectivement les choses de manière concrète, on parlait de France Travail, du chômage. Alors si on fait une rapide comparaison, bon, on avait la théorie du ruissellement, ça a plutôt ruisselé dans l'autre sens, et je le disais en préambule, finalement, Macron et ses Playmobil sont en train de détruire pan après pan, de façon assez méthodique, l'ensemble des filières, y compris d'ailleurs l'agriculture, là avec toute la question européenne, qui là non plus n'est pas traitée. Mais si on fait une rapide comparaison, ben on voit qu'en Allemagne, c'est pas plus brillant, hein, parce que l'industrie est en train d'être mise à mal aussi, hein, notamment l'industrie automobile qui était dans l'excellence, y compris l'industrie française d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu européen avec Stellantis et un peu américain aussi. Première question. Mais on voit, si on étend, que finalement, le pays qui réussit un peu, contre toute attente, hein, de tout ce que nous avaient dit les spécialistes, c'est l'Italie. L'Italie qui a une population active d'un tiers inférieure à la nôtre, qui exporte beaucoup, par tout un tissu de TPE très spécialisé, qui fait de la microéconomie et qui a gardé, et ça tu vas y être sensible sans doute, une industrie. Et est-ce que la Startup Nation, c'est ça ma question aussi, la catastrophe, dans la mesure où on s'est dit, à la fin des années 90, tu en parlais, les Américains vont nous protéger, d'un point de vue stratégique, militaire, diplomatique, etc. Les Chinois vont travailler pour nous et nous, on va faire du service. Est-ce qu'on n'a pas tout fait à l'envers? Et aujourd'hui, comment relancer l'emploi si on n'a pas d'industrie, si on n'a pas des espèces sonnantes et trébuchantes? Parce qu'on sait bien que même les startups, il y en a les 80% qui font faillite dans les 18 mois, et quand elles marchent, elles deviennent des lignes de produits de très grosses entreprises du CAC 40, ça ne crée aucun emploi, les startups. Donc comment résoudre cette équation? Ça fait beaucoup de questions, mais
Oui,
il y a beaucoup de
mais
questions
là,
là.
on est vraiment au cœur du débat. Alors, moi, je vais vous dire un truc, ce que vous abordez, parce que tu as commencé par parler de cette énigme qui est devant nous sur la qualité de service des décideurs politiques. C'est une énigme pour moi. Vous avez cité Bruno Le Maire, dont je ne sais pas si le risque majeur pour nous et qu'il ait le prix Nobel d'économie ou le prix Nobel de littérature, l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, on peut s'interroger, mais effectivement, alors finalement, c'est un peu, il est, comment dire, le ministre, c'est pas lui qui fait la politique, très clairement, à Bercy. Je crois que c'est Arnaud Montebourg qui a écrit un livre après qu'il est sorti du ministère où il explique pourquoi il est parti. Parce qu'en fait, une forme de politique se met en place et face à laquelle la volonté politique des élus peine à s'affirmer. Et quelle est cette politique qui se met en place? C'est la financiarisation, c'est le Zerizno alternative, c'est le TINA en fait. Moi, j'ai commencé ma vie d'adulte avec l'élection de Thatcher en Angleterre. Je ne pensais pas que je terminerais ma vie professionnelle avec Thatcher encore au pouvoir partout dans tous les pays d'Europe. Parce que très concrètement, c'est ça qui se passe. C'est l'extension même de l'idéologie qu'il y a derrière la financiarisation, qui est partout dans tous les pays et qui, pour des raisons que je ne veux pas commenter, parce que je ne veux pas trop sortir de mon rôle syndical quand même, mais qui finalement a fini par inonder pratiquement toutes les consciences politiques et a été mis en œuvre à différentes manières dans pratiquement tous les pays du monde, en tout cas de l'Europe en particulier. Et ça, c'est la financiarisation. Et je vais vous expliquer. Je pense que j'en ai le temps. Je vais prendre une minute pour vous expliquer ce que c'est que la financiarisation. Voilà une usine dans laquelle on exploite un procédé. Ce procédé, c'est un flux, une machine. Et pour que cette machine, elle tourne, il y a un stock de produits avant, on va l'appeler le stock A, et il y a un stock de produits après, on va l'appeler le stock B. Je suis ingénieur dans cette usine. Ma spécialité, c'est le génie des procédés. La direction me convoque et me dit, François, je te fixe un objectif. Je te fixe comme objectif que la machine fonctionne de la façon la plus optimisée possible. S'il te plaît, calcule-moi le niveau du stock A et du stock B qu'il faut avoir pour pouvoir maximiser les différents opérateurs de fabrication. Je rends ma copie. C'est assez simple. Le stock A, 5 tonnes. Le stock B, 10 tonnes. Le directeur est content. Il le note. Et puis, il convoque le directeur financier. Il lui dit, voilà, j'ai le stock A, le stock B, etc. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire, par rapport à tes objectifs à toi, de quelle valeur doit être le stock A et le stock B? Il fait ses calculs et il dit, si on ne veut pas trop avoir l'EBITDA qui part en catastrophe, etc., il va utiliser plein d'acronymes, il va dire, il faut 2 tonnes dans le stock A et 3 tonnes dans le stock B. Donc on n'a pas le même résultat. On est deux personnes qui avons le même niveau d'études, qui sommes au même niveau de responsabilité dans l'activité. On nous pose une question sur le même objet. Et on ne donne pas le même résultat. Il y a 30 ans, la direction a me donné raison à moi. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
C'est moi qui avais raison.
Mais
C'est
la
moi qui
financiarisation,
imposais.
ça a été une
C'est
catastrophe
moi qui imposais mes
pour tout,
objectifs.
bien
Et le
sûr.
directeur financier, il rentrait dans son bureau. Il a ramené pas trop. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tort et c'est lui qui décide. Donc moi, mes objectifs sont dégradés. Je viens de vous expliquer tout le mal de notre époque. De la souffrance au travail, de l'augmentation des arrêts de maladie, de la baisse de la productivité. Je viens en une phrase, une petite histoire parfaitement incarnée, de vous expliquer tout le mal de notre époque.
Et si tu peux me permettre, c'est un phénomène qui est accru par le fait que les entreprises sont cotées en bourse.
C'est
C'est-à-dire
ça.
que tu mets Total qui fait de l'énergie, mais tu le cotes en bourse. Ben, Total, les actionnaires vont demander 3%, puis 4%, puis 5%. Et
C'est
puis
exactement
ils vont
ça.
tailler dans la recherche et développement, d'abord dans la com, après dans le marketing, après dans la recherche et développement, et à la fin, tu n'as plus de produits.
Mais Didier, on n'en est plus à 5%. Aujourd'hui, tu regardes les bilans des entreprises du CAC
Oui.
40, ils font des plans sociaux. pour financer le passage de 15% à
Tout à fait.
17% de
Tu as
rentabilité.
raison, tu as
Enfin,
raison.
on est devenu complètement dingue. Moi, je ne sais pas comment. Enfin, tout ça va très, très mal finir. Et si tu veux, la problématique, c'est que cette idéologie-là, l'idéologie de la maximisation du profit pour l'actionnaire, elle a infusé, en fait, la plupart des politiques. Je ne vais pas me défausser de parler, de te dire deux mots sur la comparaison des différents pays européens. Là encore, c'est mon âge qui me permet de revenir sur toutes ces histoires-là. Moi, quand j'étais adolescent, le modèle, c'était les ouvriers autonomes dans les usines de construction automobile en Suède. Voilà, avec le partage de compétences, etc. Autant te dire que là, on en est
C'était
loin.
le modèle.
C'était le modèle. En fait, les modèles, ils tournent. Moi, je crois, désormais, on va dire, c'est ma sagesse à moi, que ça n'existe pas, les modèles. Je pense que quand on compare les pays européens entre eux, et c'est ça l'erreur, c'est comme si on comparait les langues qu'on parle. Mais peut-être que ça viendra un jour. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui dira, peut-être le Premier ministre, il dira, voilà, on a comparé l'ensemble des langages, des langues que l'on parle en Europe. Et on s'est rendu compte que l'allemand était plus compétitif que le français, que l'espagnol était plus compétitif que l'italien. Et donc, nous allons opérer une opération de convergence. Et de façon, en France, par exemple, on fait une révolution copernicienne, on décide de mettre le verbe à la fin de la phrase, parce que c'est ce que font les Allemands, et tout d'un coup, ça nous paraît plus logique. Ce que je viens de vous dire vous paraît débile, parce que c'est débile. Mais en fait, c'est l'illustration de ce qui se passe sur plein d'autres choses. Dans ce qui fait société, tout est culturel, en fait. Tout est culturel. Notre modèle social est culturel. Notre modèle syndical est culturel. Je me suis occupé pendant 7 ans de l'international dans mon organisation. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun pays qui ressemble à un autre sur la façon dont il
Oui,
organise
effectivement, tu
son
as bien compris
syndicalisme.
le sens de ma question parfaitement. C'est que souvent, tout le temps, les politiques aujourd'hui nous disent ça. Il faut s'inspirer des autres pays. Il faut regarder ce qui marche ailleurs, etc. Comme si on
Ce
était
que, ouais, ce que l'Union
un grand
européenne appelle.
marché,
Ouais,
comme si la France était.
c'est
Il y
ça.
avait un peu de malice dans ma question. Comme si la France était l'Italie. Comme si liberté, égalité, fraternité. Moi, j'ai bataillé, vous le savez, récemment sur la vision qu'on doit avoir de notre propre pays, de notre nation, parce que la France est aussi un espace social, politique, culturel, oui, parce que tout est culturel. Et faire ce benchmark tout le temps, en permanence, avec les Amélie de Montchalin, tous ces gens-là qui font des QCM de McKinsey, ça ne peut pas fonctionner, parce que
Oui,
ça ne crée pas de sens.
sur cet exemple-là, il faut aller en Italie. Il faut aller voir la diversité des peuples, la diversité des pays, la diversité des histoires. Il faut devenir plus intelligent grâce à ça. Mais
François, est-ce que ça...
c'est pas parce que tu as aimé l'Italie qu'en revenant en France, tu vas bouffer des pizzas tous les jours.
Ah,
C'est
bien sûr,
débile.
mais est-ce que ça, c'est pas quand même un point d'achoppement de l'Union européenne? Parce que quand on regarde les traités, enfin, ou tout ce qui est produit, en particulier en termes d'éducation, puisque moi, c'est plus mon domaine, mais en termes de bonnes pratiques, les bonnes pratiques, mais ça veut rien dire. C'est quoi une bonne pratique pour former un ingénieur? J'en discutais pas plus tard qu'hier soir avec un copain qui est médecin généraliste. Il me dit, mais finalement, on pourrait former un médecin généraliste en 4 ans. Parce que moi, j'ai un peu perdu du temps. Mais il m'a dit tout de suite, mais ce temps perdu m'a formé. On forme intellectuellement aussi, on forme la qualité. On peut faire des ingénieurs tête d'aiguille en 2 ans, c'est sûr. On peut faire des ultra, ultra, ultra techniciens, mais on n'aura plus le modèle de l'ingénieur, on pourrait dire, à la française, qui est en train un peu de s'exténuer. On fait un peu, voilà, comment dire, c'est des formations unijambistes. Bon, et on sait que dans notre formation, c'est important d'avoir cette formation de l'ingénieur complet qui a une vision large, qui est capable de faire des choses techniques difficiles, mais qui a aussi une hauteur de vue, une compréhension politique. C'est pas normal de former des ingénieurs ultra-techniciens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le mot politique, qui ne
Et on l'a
connaissent pas
vu,
même pas
dans
Paris.
après le démantèlement de la filière nucléaire, le fait de relancer des EPR, etc., on est incapable de les construire, de respecter le délai, de respecter évidemment le budget. Pourquoi? Parce qu'on en a perdu, ce que tu dis, Harold, ce temps long qui permet justement de garder ce savoir-faire, de parer à toutes les éventualités, de modéliser. D'avoir déjà vécu des situations, en n'étant pas forcément hyper spécialisé, mais en ayant une vision d'ensemble. Et
On a
finalement,
beaucoup.
on a appris à apprendre. Est-ce qu'on a...
Ouais.
François, j'aimerais t'entendre là-dessus aussi.
On a beaucoup démantelé les centres de formation qui étaient à l'intérieur même des entreprises. Ça me rappelle que j'ai pas dit grand-chose sur ce qu'a dit Harold sur le bilan de Pénicaud, qui est une catastrophe absolue. Nous,
Ouais, il faudra finir là-dessus, c'est important.
on pense à la CFE-CGC. On n'est pas forcément dans la ligne, pour le coup, à ce titre-là, mais je vais l'assumer. Je viens de dire une connerie, je viens de dire je vais assumer, je fais un contresens que font les politiques. Normalement, quand on assume, c'est qu'on prétend, qu'on reconnaît avoir dit une bêtise. Donc, en l'occurrence, je ne prétends pas dire une bêtise. Nous, on ne croit pas à l'efficacité économique et individuelle, donc sociale, du droit individuel à la formation. On pense que ça ne produit pas l'effet attendu. Il y a la prise en charge collective, par contre, de qualité. Ça produit des résultats. Et à ce titre, le CPF, c'est une catastrophe absolue. C'est juste une réponse politique à l'injonction du marché de la formation. Harold, tu as entièrement raison. En fait, au moment où se discute, moi je vais vous soulever un peu le coin d'une carte, au moment où se discute dans la suite des ordonnances Macron, va se discuter la réforme de la formation. Nous, on intervient et on dit, mais c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas supprimer les fonds GESIF, c'est une formation de qualité qui est sous-financée, mais qui produit du résultat, de l'insertion, de la compétence, etc. Ça coûte cher, mais voilà, la formation de qualité, ça coûte cher. On nous répond CPF, droit individuel opposable. Mais si le droit individuel opposable au logement, ça marchait, il y aurait pas de sans-logis dans la rue. Donc en fait, le droit individuel opposable, ça marche pas, mais ça répond à une injonction du marché. En l'occurrence, les organismes de formation privée, ils sont regroupés en fédérations professionnelles et ils avaient réclamé près du ministre à ce qu'on double la valeur du marché d'intervention privée pour les organismes de formation. Tout ça est documenté. Le DIF, avant, le droit individuel, c'était 1 milliard d'euros. Ils ont demandé le doublement de la valeur de ce marché et par la création du CPF, c'est passé à 2 milliards d'euros. C'est devenu une petite mer dans laquelle les organismes sont venus se servir. Évidemment, il y a eu une désescalade qualitative. J'ai dit moi-même à Muriel Pénicaud, elle était encore ministre, je reviens de la bâtie, puisque comme vous le savez, je travaillais à l'usine, donc tous les week-ends, en fin de semaine, je discute avec mes collègues, et on me dit, François, mais qu'est-ce qui se passe? Le CPF, c'est une catastrophe. Les gens se connectent ou se font connecter par leur sœur, leur frère, etc., pour faire des formations à distance sur l'ordinateur. Et ils ne le font parce qu'on leur a offert en prime un écran télé ou un téléphone portable. Je raconte l'histoire à Muriel Pénicaud. Elle me dit, c'est pas vrai. Je lui dis, mais dites que je suis menteur. Elle me dit, il n'y a que vous. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Si moi, je le vois. Tout le monde le voit, c'est partout pareil. Donc en fait, vous avez mis de l'argent, mais là c'est qu'un milliard, c'est pas si grave. Mais vous avez mis de l'argent, prétendant que vous allez donner plus de chance aux gens, parce que finalement, le seul intérêt qu'ils vont trouver à faire une formation pipeau à distance, on peut même faire connecter, moi je ne sais pas, sa voisine à la place, et tout ça pour avoir un truc en prime. Mais c'est la vision la plus misérable de la formation qui puisse exister. La vision la plus consumériste, la vision la plus minable. Alors, justement, et c'est là que ça fait le lien avec la performance économique, il a existé dans les entreprises à la grande époque, on parle des Trente Glorieuses, eh bien, des centres de formation partout, dans la construction automobile, dans l'aéronautique, dans la chimie, dans la pétrochimie. Les gens rentraient sans diplôme ou avec parfois des formations incomplètes, des gens qui étaient sortis, parce que c'est les époques aussi qui voulaient ça, les conditions sociales. Ils rentraient dans l'entreprise et dans l'entreprise, ils rentraient ouvriers. 20 ans plus tard, ils étaient cadres. Ça existait, ça. Ça existe encore aujourd'hui. Mais au moins, il y avait l'encadrement collectif, il y avait le projet, il y avait l'intégration à un destin collectif. Tout ça était complètement financiarisé. Et donc aujourd'hui, on n'a plus le résultat qualitatif. Et ça, c'est un drame. Et ça, il faut vraiment s'intéresser à ça. Parce qu'il n'y aura pas de redéploiement industriel si on n'intervient pas, mais de façon décisive, et particulièrement fort sur tous les moyens qui permettent d'organiser la qualification dans l'entreprise. Et je m'inscris en faux total sur ce qu'a dit Elisabeth Borne, mais bon, là, je vais faire que finir le travail, quand elle prétend qu'il faut penser à sa formation à l'école maternelle, mais c'est terrifiant, c'est
Terrifiant.
terrifiant. Il faut former des gens qui sont intelligents, capables de s'adapter. Après, ils rentrent dans des entreprises, et là, on les met face à leurs responsabilités, on leur donne les moyens de se former au métier de l'entreprise et ils deviennent compétitifs à l'intérieur.
Mais en plus, c'est en contradiction complète avec leur modèle. C'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que c'est presque en contradiction complète avec leur modèle de flexibilité et d'adaptation. Parce que si on est complètement, encore une fois, unijambiste,
Tout à fait,
je
tout
vois
à
pas
fait.
comment on peut changer de métier ou changer de branche. Enfin, c'est pas possible. Comment ils ne voient pas ces contrats? C'est pour ça que j'oscille toujours entre le cynisme et la, je sais pas. Enfin, j'ai du mal à saisir quand même.
Je crois qu'il y a un
Oui, là,
problème.
parce que souvent, on pense qu'il y a une stratégie. Moi, je bataille souvent, hein, tu me vois sur les réseaux notamment. Les gens disent oui, c'est Davos, c'est ci, c'est là. Il y a une stratégie où les gens, le personnel politique, aidé par les médias, répondrait à des injonctions venant d'ailleurs. Mais je crois que malheureusement, presque, j'allais dire, le projet, c'est qu'il n'y a pas de projet. Et que la plupart. Alors, bien sûr, il y a quand même une idéologie de déréglementation, de start-up nation, de tout vaut tout, de relativiser, etc. Bon, ça très bien. Et un européisme béat. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi beaucoup d'improvisation, de décision au fil de l'eau. Et ça explique beaucoup de choses. Tu penses pas, François?
Oui, moi je suis assez d'accord. Le seul complot auquel on est confronté, c'est le complot de la bêtise, en fait, et du manque d'ambition. Franchement, moi je pense que faire de la politique, c'est faire des choix. Et avoir des gens qui font campagne en disant de toute façon, on n'a pas le choix, il faudra bien qu'on le fasse, bah, à ce moment-là, moi je ne vois pas quelle est leur valeur ajoutée. Si vraiment on a le choix de rien. Bah, à quoi ça nous sert, les décideurs politiques? À quoi ils nous servent? Ils ne servent à rien. À quoi nous servent les chefs des grandes entreprises qui nous disent on n'a pas le choix, il faut faire mieux avec moi? Bah, ils ne nous servent à rien. S'ils ne nous font pas rêver, s'ils n'engagent pas un mouvement, une volonté d'avancer avec un projet stratégique, avec une vision. Moi, je suis un ancien du groupe Péchiney, j'ai le souvenir, on visite l'usine d'Issoire, on nous présente, c'est quand même une usine de haut niveau, il y a 2000 salariés là-dedans, ils fabriquent pour partie les ailes des Air, enfin, certaines ailes de certains Airbus, c'est de la haute technologie, et notamment les très compétitifs, parce qu'ils ont installé un banc de traction à la fin des années 30, à un endroit à Issoire, au centre de la France, qui a été choisi pour ça, parce que c'était l'endroit le plus éloigné de toutes les frontières de la France. C'est drôle, il y a toujours une raison à faire un choix stratégique. Moi, j'ai connu jeune ingénieur, on nous disait il faut tout implanter près des ports, peut-être près de la mer, ça part en bateau. Donc, il ne faut pas avoir des coûts. Et là, les orientations stratégiques sont différentes. Et donc, on installe quelque chose et je pose la question. Je dis, mais vous êtes super compétitif grâce à ça. Est-ce qu'au moment où on a fait l'investissement, il était vraiment rentable? Et évidemment, la direction me répond que non. Mais la vision stratégique, c'est une vision qui propose et qui propulse une activité sur une rentabilité à moyen terme. Mais dès l'instant que vous faites les vous, et moi, je peux vous dire, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans les boîtes, que vous imposez la rentabilité à 2 ans, ben, c'est plus possible. C'est plus possible de réfléchir et de s'investir dans une stratégie. Parce que la rentabilité à 2 ans, ça vous met à bas le marketing, par exemple.
Évidemment.
Je prends un autre exemple. Thales à Alenia à Cannes, on y fabrique des satellites. C'est un endroit où, au début, dans les années 30, on fabriquait des hydravions, au même endroit. Et moi, je pose la question, je dis, c'est bizarre, entre les hydravions et les satellites, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, les gens, ils ont fait du marketing, ils ont fait de l'innovation. Ils se sont dit, ben, il y a un marché qui est en train de disparaître, on a des compétences, on va anticiper, parce que peut-être ces compétences-là vont nous rendre compétitifs sur un marché qui va s'ouvrir dans 5 ans. Vous imaginez un peu des dirigeants qui ont pensé leur activité à 5 ou 10 ans et qui ont été capables de faire muter la fabrication des hydravions aux satellites aujourd'hui. C'est un
Eh oui,
exemple
mais
magique, ça.
toute l'histoire de l'Europe, elle est basée là-dessus, en fait, hein. Des gens qui fabriquaient des moteurs pour les tondeuses, eh bien, ça a donné les plus grands constructeurs de voitures sportives. Ça a donné Lamborghini, ça a donné Ferrari, etc., etc. Les moteurs d'avions, au départ, des petits avions, bah, ça a donné Rolls-Royce, etc. Bon, ça, c'est toute l'histoire de l'innovation. Et pour conclure, je te laisserai le mot de la fin. Aujourd'hui, je me suis rendu au Mans. J'habite dans le Perche. Et bon, je rayonne un petit peu chaque fois autour de cette région. Et je me dis chaque fois, la France est un désert. 80% de la population vit sur 20% du territoire. Mais si on fait une espèce de relation spatio-temporelle et à la fois stratégique, on se rend compte qu'on ne fait plus d'aménagement du territoire, on ne réfléchit plus, on ne met plus les entreprises qui devraient être près des ports, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans la financiarisation, dans la rentabilité et qu'on est dans la mondialisation et que tout est interchangeable. Et que quand tu n'as plus de stratégie, quand tu as 2 ans, on ne peut plus faire de stratégie, on fait de la tactique, on répond à des injonctions à très court-termistes, surtout quand il y a la bourse maintenant, c'est le plus sûr moyen de détruire une entreprise, de la coter en bourse. On voit avec des fluctuations qui n'ont plus rien à voir avec la qualité, la valeur de l'entreprise. Elle est valorisée parce que les gens font les singes habillés dans des assemblées générales où il faut dire un certain nombre de stimuli pavloviens. Et puis là, il est super, etc. Et donc là, au bout du bout, très rapidement, on détruit les entreprises. Alors, pour finir sur une note d'espoir quand même, dans ce temps qui nous reste, allez, jusqu'au 14 juillet, puis peut-être jusqu'à la fin du mandat de Monsieur Macron, puisque là, on voit qu'on est dans le dur, hein, et puis il n'y a pas de bonnes nouvelles. Être français en France depuis 8 ans, c'est pas rigolo, hein. On est dans une espèce d'hystérie permanente, avec des gens, alors, en plus il y a du racisme, de la xénophobie, les OQTF, les Arabes, les musulmans, toute la journée, peut-être l'insécurité, il y a peut-être d'autres choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses, François? Et si la France souffrait d'une absence de projet, tout simplement?
Ouais. Pour moi, c'est ça le truc. On a d'ailleurs fait une brochure au moment des élections présidentielles en 2022 qui s'appelle « On interpellait les candidats aux élections », ça s'appelait « Restaurer la confiance ». Et on a fait la thématique de notre congrès en 2023, au mois de mars 2023, sur ce sujet, vous m'avez entendu le dire souvent ce soir entre nous, de « Restaurer la confiance ». Moi, je pense que les ressources en France, je suis assez optimiste. Alors, vous savez, de toute façon, pour faire du syndicalisme, il faut quand même être un peu optimiste, hein, parce que le travail n'est pas facile tous les jours. Il faut y croire. Moi, j'y crois beaucoup parce que les ressources sont encore extrêmement importantes. Elles n'ont pas disparu. Peut-être si j'ai une minute, un exemple. Dans le groupe Pechiney, devenu Alcan, puis Rio Tinto, beaucoup d'usines ont été fermées. Et surtout, le truc qui a été terrible, c'est que pour maximiser le profit pour les actionnaires, parce que pour moi, c'est vraiment le mal qui est à la racine de tout. Hein, il faut être clair, il faut simplifier le message. Maximiser le profit pour l'actionnaire, c'est la financiarisation et c'est toutes les conséquences néfastes que l'on a aujourd'hui, y compris l'augmentation des arrêts de maladie. Je fais un raccourci, mais ce n'est
Non,
pas un
non, mais
problème. Je suis prêt à me
c'est le
justifier.
vrai. C'est
Je
comme
suis
ça
prêt
que
à me
ça se passe.
justifier. Et donc, à Saint-Jean-de-Maurienne, où on a inventé l'électrolyse de l'aluminium, vous connaissez Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une vallée magnifique, mais ce n'est pas non plus l'endroit le plus passant de la France, quoi. Eh bien, c'est là-bas qu'on a inventé l'électrolyse de l'aluminium qui génère toute cette technologie dispersée partout dans le monde avec des géants de la production d'aluminium. Ça prend naissance à Saint-Jean-de-Maurienne. Et il y a là-bas une usine d'électrolyse que les gens qui passent sur l'autoroute voient bien du côté droit. Et cette usine, elle a été menacée de fermeture parce qu'elle n'avait pas la rentabilité qu'il fallait. Elle est finalement rachetée par un entrepreneur allemand, boîte familiale, qui fait profession de racheter des électrolyses dont les grands groupes ne veulent plus parce qu'ils ne sont pas assez rentables. L'histoire que je vous raconte se passe il y a 12 ans. Et il prend trois décisions quand il arrive dans l'usine où les gens ont le moral dans les chaussettes. Franchement, on a failli les fermer. C'est leur dernière chance. Le gouvernement s'est investi, etc. Bon, ils ont trouvé une solution. Il prend trois décisions. La première, il redémarre la production, puisque pour améliorer la rentabilité financière, l'actionnaire avant avait divisé par deux la production. Il embauche 80 personnes. Il dit, moi, j'en ai marre des intérimaires, je veux stabiliser l'emploi, je prends 100 contrats de professionnalisation, dans 6 mois, j'en embauche 80. Finalement, il en embauchera 120. Troisième décision, l'usine était spécialisée sur la production de fil. Il dit, tout ça, c'est de la merde, il faut faire plusieurs produits à la fois, on va acheter une chaîne à lingots et on va redémarrer une coulée continue verticale. Et là, les gens, ils se disent, oulala, là là, oulala, là là, mais ça fait 6 ans qu'on l'a arrêté, la dernière coulée conique. On ne sait pas faire. Et là, le gars, il dit, ils sont où les gens, les derniers qui ont travaillé sur la CCV? Ben, il dit, mais ils sont retraités, ils habitent le village et tout ça. Vous me les convoquez, je leur parle demain. Je raccourcis un peu le timing, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Ils achètent la CCV, ils convoquent une dizaine de retraités qui avaient pris leur retraite, qui, opérateurs, contremaîtres, avaient travaillé dessus. Ils avaient le bleu encore avec le pli, le bleu tout neuf. En, allez, on va dire 2 heures, tout était revenu. Et ce sont les retraités qui, pour certains, n'étaient plus dans l'usine depuis 6 ans, voire 8 ans. Tout était revenu. Et moi, c'est mon message d'espoir, ce sera peut-être mon mot de conclusion. Effectivement, il y a une vraie intelligence française. Il y a un vrai génie français. Nos dirigeants, ils l'ont foutu à la retraite. Mais au moment où on remet ce génie français sur le lieu de travail pour réfléchir, prendre des responsabilités, pour penser l'avenir, pour avoir une vision stratégique, ça va revenir très vite. Il n'est pas encore trop tard. Mais il faut se mobiliser.
Eh bien, merci, merci François pour cette expertise, ce débat très riche, cet échange. Ici, sur QG, effectivement, on prend le temps, on essaie de recréer de la force collective, de l'intelligence collective, du partage, en abordant les sujets de façon latérale, ce qu'on ne peut plus vraiment faire dans les médias mainstream, où là, on est aussi dans la dictature de l'instant, un peu comme... L'analogie avec la bourse est assez pertinente d'ailleurs, hein. C'est de la micro-action, il faut acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Puis à la fin, quand on a éteint, on ne sait plus trop ce qu'on a fait, ce qu'on a regardé, c'est un peu comme les mauvais livres. Parfois on se fait happer, on lit machinalement, et au bout des 50 pages, on ne sait même plus ce qu'on a lu. Bon, moi, ce genre de livre, maintenant, je les mets directement à la poubelle. Merci à vous tous qui nous suivez, merci Harold. Je rappelle que sur QG, bah, effectivement, nous n'avons... pas d'actionnaires, que nous ne sommes pas cotés en bourse. Donc abonnez-vous, suivez-nous, faites le savoir. Cette approche latérale, c'est ce qui nous permet, je pense, de garder ce fil entre nous, de redonner du sens aux événements, aux choses, et repuiser au fond de nous-mêmes, dans ce vieux pays, ce vieux continent, hein, comme disait Villepin, puisqu'on parle beaucoup de l'ONU en ce moment. C'est au nom d'un vieux pays et d'un vieux continent qui a encore beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence et beaucoup de choses à partager. Quand je vois les talents qu'il y a en France, la diversité de ce pays, la richesse de ces hommes, parce qu'il n'est de richesse que d'hommes, il y a encore, heureusement, des motifs d'espérer. Bonne
Alors,
soirée à tous.
merci, merci François, merci Didier pour une réescalade qualitative. Voilà, on est
Voilà.
parti.
Voilà, bien, bien. Merci Didier, merci Harold, merci de l'invitation.
Merci
Et
François. Bientôt. Merci à tous.
merci à tous les auditeurs.
Merci,
Merci à toutes
merci
et à
à
tous,
tous.
merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.